France Culture.
La semaine prochaine, dans Science Chrono, on se demandera comment le siècle des Lumières a érigé l'universalité comme principe scientifique. Est-ce que ça a changé dans l'histoire et la pratique des sciences? Et dans l'entretien archéologique, nous parlerons du site de Göbekli Tepe, en Turquie, qui abrite les vestiges architecturaux du plus vieux sanctuaire connu à ce jour, construit il y a près de 10 000 ans par des chasseurs-cueilleurs. Nous aurons l'honneur de recevoir l'un des spécialistes de ce site, l'archéologue allemand Moritz Kinzel. Vous écoutez France Culture, il est 17h, et tout de suite, on vous retrouve Aurélie Kiefer pour le grand reportage de la Action. Bonjour Aurélie.
Bonjour Antoine. Et à l'occasion du Salon de l'agriculture qui se tient jusqu'à dimanche à Paris, nous nous demandons s'il est possible de se passer des pesticides.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Je suis un peu comme le médecin de mes cultures, je suis qualifié pour ça, pour utiliser les produits phytosanitaires et donc j'applique des produits qui sont autorisés avec une autorisation de mise sur le marché, comme les médicaments des plantes en fait.
Il faut essayer de réglementer l'agriculture, y compris sur les rendements, et chercher à viser des rendements raisonnables, pas des rendements à 90 tonnes, qui sont atteignables avec les néoniques, mais au prix d'un dégât environnemental et des ressources naturelles inacceptables.
Moi je dis on aura toujours besoin du chimique, on peut le travailler différemment. Et voilà, il faut qu'on les utilise de mieux en mieux. Ça, je suis convaincu qu'on peut encore aller plus loin. Et voilà, il faut nous laisser le temps.
Les effets de l'érosion de la biodiversité sont de plus en plus tangibles, comme les oiseaux des campagnes, abeilles et autres pollinisateurs, précieux alliés des agriculteurs, sont en déclin. Pourtant, l'usage des pesticides continue d'augmenter dans le monde. Entre 1990 et 2022, la quantité de substances actives utilisées par les agriculteurs a doublé. Le Brésil reste de loin le pays le plus utilisateur devant les États-Unis. La France arrive en 10e position. Elle répand 3,5 kg de produits phytopharmaceutiques par hectare, ce qui en fait le plus gros pays consommateur d'Europe. La France a pris des engagements avec les plans éco-phyto successifs déployés depuis 2008 et elle continue d'afficher l'objectif de réduction de 50% des produits phytosanitaires d'ici 2030. Mais face à la crise agricole et au cortège de tracteurs, l'exécutif a reculé. Plutôt que la transition agroécologique, la priorité est aujourd'hui à la souveraineté alimentaire. Et fin janvier, le Sénat a voté une proposition de loi visant notamment à lever l'interdiction de certains pesticides néonicotinoïdes. Le modèle productiviste fait de la résistance, en particulier dans les Hauts-de-France, première région pour la pomme de terre, l'endive ou encore la betterave sucrière. L'agriculture bio n'y dépasse pas 3% des surfaces agricoles. Et selon une carte réalisée par l'ONG écologiste Génération Future, l'Aisne, la Somme et le Pas-de-Calais forment le top 3 des achats de pesticides en France. Les Hauts-de-France peuvent-ils sortir des pesticides? C'est un reportage signé Lise Verbeck. Bonjour Lise.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'ici Picardie, à Amiens. Vous avez tourné votre reportage sur les pesticides dans la Somme. Et ça n'a pas toujours été évident parce que ce sujet, Lise, les agriculteurs n'ont pas envie de l'aborder.
Oui, car ils ont peur d'être montrés du doigt, que leurs propos soient déformés ou peur de subir de l'agribashing. Beaucoup d'ailleurs refusent de parler de pesticides, un mot trop péjoratif selon eux. Ils préfèrent utiliser le terme produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques. Des médicaments, disent-ils, qu'ils donnent à leurs plantes, comme pour les humains, pour soigner des maladies. Ceux qui ont finalement accepté de témoigner dans le reportage l'ont fait car ils voulaient casser certaines idées reçues. On n'épand pas dans les champs par plaisir, m'ont-ils tous dit. Certains agriculteurs sont conscients des enjeux environnementaux et de santé, mais ils expliquent qu'ils se retrouvent coincés face à une obligation de rendement et des contraintes économiques.
Merci Lise. Notre invitée en direct de Montpellier est l'économiste Sophie Toyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche en économie agricole et environnementale à l'INRAE, l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Avec vous, nous allons tout de suite écouter le reportage de Lise Verbeck qui nous emmène d'abord à Saint-Gain-en-Mélantois, au sud de l'île, chez un producteur d'endives.
Bonjour. J'ai rendez-vous avec monsieur Mazingarde.
Ouais.
Bonjour.
Dans un grand hangar, une dizaine de salariés s'activent pour emballer les endives. Les boîtes s'entassent sur les palettes, prêtes à partir. Chaque année, Christophe Mazingarbe, associé avec son frère et son cousin, produit 2200 tonnes d'endives.
Ouais, ben, nous ici on est débordés aussi.
Vous voyez, là on va être avec deux techniciens sur des nouvelles variétés justement. Parce qu'on a la problématique donc des herbages. On a plus de Bonalan, tout ça, et donc ça, c'est une nouvelle variété.
Justement. Bonalan, c'est un produit phytosanitaire qui a été interdit l'année dernière, c'est
un
ça?
Un herbicide, voilà, c'est ça. Qui est hyper important pour nous parce que c'était le seul produit qu'on pouvait utiliser pour le kénopode, qui est une plante qui est très envahissante. En fait, une graine, elle va faire un mini-arbuste le temps que ça pousse l'endive, et en fait, elle va étouffer l'endive. Donc sans ce produit-là, on a une grosse, grosse problématique. Et donc, pour essayer de quand même continuer à cultiver et faire quelque chose, on a des variétés qui arrivent, qu'on dit tolérantes à certains herbicides. Donc ça, c'est une nouvelle variété. Mais vous voyez, ça, on a une variété classique. Il y a un peu l'aspect, bien l'aspect d'une endive. Vous voyez ? Et là, on a un peu de feuilles qui se retournent, il y a un petit peu de feuilles gaufrées, donc il y aura un peu plus de travail. Donc en rendement hectare, on va être moins bien.
Oui, elle est un peu plus ouverte que les classiques.
C'est exactement ça. On va avoir à peu près le même nombre de racines dans le bac, mais on va avoir un peu plus de déchets. Et donc, on va faire un petit peu moins de poids dans le bac, multiplié par 156 bacs qu'on fait tous les jours. Là, on a au moins 10-15% de baisse de rendement sûr, en ayant le même travail. C'est ça le problème. Alors, quand l'endive est payée cher, ça va. Mais aujourd'hui, on a de l'endive. Vous voyez, j'ai un coût de production à 60, à 70. Si j'en touche un 20, un 30, c'est bien. Donc ça veut dire que là, en ce moment, toutes les paillettes qui sortent du conditionnement, on produit quand même 10 tonnes jour, je perds de l'argent. De toute façon, il vaut mieux pas prendre la calculette. Hein. Sinon, ce soir, tu te dis, bon ben, je me lève pas demain matin. Et bon, non, on a la passion, donc on se lèvera demain matin. Mais voilà.
16 vrac. Et les rouges. Mazingarbe.
Pour la prochaine campagne, l'agriculteur s'inquiète car ça sera la première sans les deux pesticides interdits récemment.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous a retiré le produit, on ne nous a pas mis de solution en face. Aujourd'hui, sur les insecticides, je peux concevoir. Mon grand-père utilisait des mauvais produits. Il a désherbé avec des produits, surtout des produits à maïs. C'était l'Amérique, quoi. Tu passais une fois, le champ était hyper propre. Mon oncle serait là, il dit, je me souviens encore de Popo qui brassait le produit avec ses mains, avec son bras, parce que bah on savait pas que c'était pas bon tout ça. On se doutait que c'était pas nickel, mais bah, bref. Tous ces produits-là, mais que mon grand-père utilisait, mon père les utilisait plus. Moi, j'utilise plus les produits que mes parents utilisaient. Et on va avoir une évolution dans le bon sens. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut nous laisser le temps. Et c'est ça que moi aujourd'hui, j'étais pas content au niveau du gouvernement, c'est que on nous retire des produits, on ne met pas de solution, et il faut qu'on nourrisse les gens.
Et du coup, vous aimeriez que les produits phyto qui ont été interdits l'année dernière, il y ait une dérogation pour les réutiliser à nouveau ?
Oui, si on pourrait avoir ça, parce que voilà, et montrer aussi, et c'est ce qu'il fait, hein, mais dire à l'État, ok, on a une dérogation, mais on met ça en place, parce qu'il faut qu'on trouve une solution. Donc on l'a cette année, ok, merci, on a essayé, voilà les résultats, on a trouvé, on n'a pas trouvé, ou c'est pas performant. Bon, mais voilà, pas dire, ouais, bah, c'est bon, on a la dérogation, allez, on se remet sur nos petits oreillers, tranquille. Non, montrer qu'on est vraiment dans l'expérimentation pour trouver une solution, et il faut nous laisser chercher. Alors ce sera peut-être dans la chimie, ce sera peut-être par les croisements, mais voilà, il nous faut que l'État nous donne plus de temps, mais montrer qu'on cherche, qu'on évolue.
Christophe Mazingarbe a investi 45 000 euros il y a 3 ans dans une station de traitement de l'eau. Elle lui permet d'ajuster les propriétés de l'eau mélangée aux pesticides pour qu'il soit plus efficace sur les cultures. Et donc, selon lui, de réduire de 20% l'utilisation d'insecticides dans ses champs.
Moi, je dis, on aura toujours besoin du chimique. On peut le travailler différemment, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on met un produit dans le pulvée, nous, c'est des centaines, voire des milliers d'euros qu'on met dedans. On n'a pas envie de les mettre, mais il faut qu'on les mette pour qu'on sorte un produit. Mais on ne s'amuse pas à en mettre pour dire d'en mettre. Et voilà, il faut qu'on les utilise de mieux en mieux. Ça, je suis convaincu qu'on peut encore aller plus loin. Et voilà, il faut nous laisser le temps.
Est-ce que vous êtes prêt à réduire vos rendements pour utiliser moins de produits phyto ?
Non, je suis pas prêt à réduire mon rendement. Non, non. Parce que si j'ai pas de rendement, je vends pas beaucoup, j'ai pas d'argent, je peux pas payer tout le monde. Ok, je suis agriculteur, mais j'en ai marre de travailler pour la gloire, quoi. J'ai envie de gagner aussi ma vie. J'ai envie de payer des vacances à mes enfants. J'ai envie de dire, pas tous les mois, c'est la galère. Et voilà, quoi.
Bonjour.
Tu sautes pas, tu sautes pas.
Bonjour, allez-y, entrez.
Merci.
Bonjour. Monsieur Pelpier.
Oui,
Lise va avec.
Donc, je m'appelle Xavier Palpier, je suis agriculteur à Bayonvillers, à l'est de la Somme, sur le secteur Santerre, entre Amiens et Saint-Quentin. Alors, on est sur une exploitation de type polyculture, on fait des céréales, donc du blé, du colza, de la betterave sucrière, des légumes de plein champ, donc pois de conserve et haricots verts, et la pomme de terre consommation. Bon, on est à peu près sur 35% de la surface en pommes de terre, quoi.
Au niveau des produits phytosanitaires, quand vous les utilisez, comment vous les utilisez?
Alors, on a trois types d'utilisation sur la culture de pommes de terre. Ça va commencer par la partie désherbage pour permettre d'avoir une culture qui soit le plus propre possible. On a également une protection insecticide pour lutter contre des problèmes de pucerons qui créent des viroses qui ont des conséquences à la fois sur la plante et sur le produit fini. Et la grosse partie, c'est la gestion des maladies. Le gros problème de la pomme de terre, c'est la maladie, c'est le mildiou. Donc le mildiou qui se développe ou qui plus ou moins selon les années, selon les conditions d'humidité, de température. Donc voilà, c'est un peu les trois gros pôles sur lesquels on doit travailler au niveau de protection phytosanitaire.
Comme ça fait 25 ans que vous êtes agriculteur, vous avez toujours utilisé de la même manière ces produits phytosanitaires et peut-être comment vos parents aussi les utilisaient vu que vous avez repris l'exploitation familiale?
Alors non, on les utilise pas de la même manière parce que on a tout intérêt, nous les premiers, à les utiliser le moins possible. Au fil des années, il y a des matières actives qui ne sont plus autorisées pour X ou Y raisons, par des raisonnements scientifiques ou commerciaux. Et nous devons d'en appliquer le moins possible, déjà pour un critère économique, parce que c'est des applications qui ont un coût, et puis pour un critère de durabilité où nous souhaitons utiliser les produits à leur meilleure efficience pour en utiliser le moins possible. Aujourd'hui, si je prends par exemple l'exemple des protections contre la maladie du mildiou, nous utilisons beaucoup un outil d'aide à la décision qui s'appelle Mileos et qui nous permet de gérer au mieux par rapport aux données que nous avons par des stations météorologiques, par rapport au cumul d'hygrométrie, au cumul de température, aux conditions à venir, de savoir si on déclenche ou pas une protection fongicide, ce qui nous permet de reculer les délais d'intervention quand on peut les reculer. Et tout ça sur une méthode avec un logiciel qui est calculé et qui est mis en place par Arvalis, l'Institut du Végétal notamment, qui nous permet de raisonner vraiment au mieux. Outil qui n'existait pas il y a 20 ans et encore moins dans les générations avant, quoi. Aujourd'hui, si on veut se comparer avec une époque où on utilisait beaucoup moins de désherbants, par exemple, sur la culture, il y avait des coûts de mécanisation qui étaient beaucoup plus élevés parce qu'il fallait passer beaucoup plus souvent avec des butoirs, des bineuses à pommes de terre. Et c'était une époque où il y a 25% de la population qui travaillait dans les champs. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'acteurs actifs dans les exploitations agricoles. Donc rien que pour ça, on peut pas retrouver des solutions qui sont énergivores en main d'œuvre. Et puis sur la partie fongicide, on demande que ça, d'en utiliser moins et d'en consommer moins, mais on s'adapte année après année, quoi. Je sais pas vous dire aujourd'hui si on va avoir beaucoup d'interventions pour la maladie ou si on va pas en avoir beaucoup. Ça. Jusque la fin de la culture, on sait pas le dire. La culture de la pomme de terre, c'est une culture avec un cycle très court, hein, c'est entre 120 et 150 jours. Le moindre aléa peut engranger une baisse de rendement rapidement et sans possibilité de retour en arrière, quoi.
Une bonne partie des pommes de terre de Xavier Palpier sont vendues aux industriels de la chips, avec un cahier des charges précis concernant la taille, la tenue et la couleur de la pomme de terre. L'agriculteur est donc dépendant de ces contrats.
Comme toute entreprise, une exploitation agricole a besoin d'une rentabilité économique aussi. Donc si l'avenir doit nous pousser à produire moins, il faudra que ce soit une rémunération qui soit supérieure, bien entendu, pour avoir une juste rémunération. Il faudra peut-être que le client final accepte d'avoir un produit différent. Je veux dire, si vous avez quelqu'un qui va dans un restaurant, qui va manger des frites par exemple, qui ne sont pas d'un standard de couleur, de dureté ou de goût, il va se plaindre au restaurateur. Et si le client final n'est pas prêt à faire des efforts, on se doit aujourd'hui de continuer à livrer le produit qu'on a besoin de livrer, quoi.
Allô ?
Oui, bonjour monsieur Hameau, c'est Lise Verbeck de France Culture. Oui. Je suis devant votre portail.
Un grand portail vert, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Ouais, j'arrive tout de suite.
À tout de suite. Merci.
Merci.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Fabien Hameau est agriculteur à Ruménil dans la Somme. Il cultive des céréales, des pommes de terre et surtout de la betterave. Il est d'ailleurs le président dans le département de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves.
Donc là, voilà, vous avez l'aire de remplissage en fait de mon pulvérisateur, donc qui est une aire en fait sécurisée, avec également donc une aire de lavage et puis un système donc qui sécurise en cas de fuite ou de débordement en fait le éventuellement ça c'est réceptionné donc dans un bac qui est totalement sécurisé. Donc là, on se trouve juste devant en fait local phytosanitaire qui est également totalement sécurisé, cadenassé, avec donc un système aussi de protection contre l'incendie. C'est un stockage qui est cloisonné en fait, produit par produit, pour éviter tout problème de manipulation. La première concurrence en fait pour une culture, c'est notamment les betteraves. En fait, c'est les mauvaises herbes, donc on a quand même besoin d'utiliser des herbicides. Hein, donc, je suis un peu comme le médecin de mes cultures. Donc, je suis qualifié pour ça. Pour utiliser les produits phytosanitaires. Et donc, c'est un peu le principe, un peu comme une ordonnance. Donc, j'applique des produits qui sont autorisés avec une autorisation de mise sur le marché, comme les médicaments des plantes, en fait.
Et depuis 20 ans que vous êtes agriculteur, est-ce que vous utilisez aujourd'hui moins de produits phytosanitaires qu'il y a 20 ans ?
En 30 ans, on a baissé de 30%. Voilà, ça, c'est facile. Donc, je ne sais pas si on va s'inscrire, on va continuer à s'inscrire dans la même décroissance d'utilisation, je dirais. Mais l'important, c'est surtout, en tant que producteur, moi, j'ai surtout besoin de produits efficaces. Donc, en fait, quand le produit est efficace, on l'utilise moins. Donc voilà, là on est devant le pulvérisateur en fait, hein, qui est contrôlé tous les 3 ans par rapport à son entretien, enfin qu'il soit en bon état et donc ça fait partie des obligations en fait de la réglementation aujourd'hui. Voilà.
En 2023, les néonicotinoïdes qui entourent les semences de betteraves pour contrer la jaunisse véhiculée par les pucerons ont été interdits. Juste avant le salon de l'agriculture, le Parlement a voté une loi d'orientation agricole. Et dans cette loi est inscrit le principe « pas d'interdiction de pesticides sans solution ». Pour Fabien Hameau, cela va dans le bon sens car selon lui, les recherches pour trouver une alternative sont encore longues.
Donc le PNRI qui est mis en place pour la filière de la betterave, donc c'est le plan national de recherche et d'innovation contre la jaunisse de la betterave. Donc il commence à trouver en fait des pistes hein, donc pour contrer cette maladie. Ils ont identifié plusieurs leviers, notamment des plantes compagnes en fait, donc pour distraire en fait les pucerons et les détourner de la culture. Également l'épandage de phéromones en fait hein, qui vont repousser les pucerons. Cela dit, c'est un peu compliqué à mettre en place dans les parcelles et donc surtout avec un coût important et quelquefois aussi avec un effet en fait une plante compagne en fait elle vient si on la détruit pas suffisamment tôt finalement elle vient aussi nuire à la culture de la betterave elle-même et donc un impact aussi sur le rendement. Les pucerons, il suffit d'en avoir très peu pour avoir un impact très négatif, qui se multiplie très très vite. Et donc, on n'a toujours pas trouvé de solution vraiment efficace.
Pour l'association de défense de l'environnement, Génération Future, qui alerte sur les taux de pesticides dans l'air et dans l'eau, la culture de la betterave doit continuer sans néonicotinoïdes. François Veillerette, porte-parole de l'association, que l'on retrouve chez lui, dans l'Oise.
En fait, c'était pas tant un problème de rendement, et on l'a vu ces 2 années passées, puisque sans néonicotinoïdes, on a produit 83 tonnes de betteraves à l'hectare il y a 2 ans, l'année dernière. Cette année, je crois que 79 ou 80 tonnes, donc en moyenne plus de 80 tonnes. Au début des années 2000, 80 tonnes, c'était un rendement vraiment quasiment inatteignable. Et maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a plus de quota de betteraves. plus de quotas, plus de limitation à la production, plus de limitation à la production surproduction. Chacun se dit qu'il va en faire un peu plus. Du coup, surproduction égale effondrement des prix. Et comment on fait pour retrouver du revenu? Si les prix baissent, on essaie d'augmenter la production. Donc c'est en fait, dans ce truc-là, l'environnement, les ressources en eau, ça devient une espèce de variable d'ajustement pour retrouver du revenu. Alors que moi, je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut essayer de réglementer l'agriculture, y compris sur les rendements, et chercher, viser des rendements raisonnables, pas des rendements à 90 tonnes, qui sont atteignables avec les néoniques, mais au prix d'un dégât environnemental et des ressources naturelles inacceptables.
Il faudrait réintroduire des quotas ?
Oui, alors, réintroduire des quotas, ça veut dire qu'il faut remettre en cause un certain nombre d'accords internationaux. C'est pour ça que ce n'est pas neutre politiquement du tout, ces accords-là. Parce que si vous considérez que l'agriculture est une activité qu'on ne doit pas limiter, il y a la guerre des prix au niveau international, en faisant sauter toutes les règles sociales et environnementales, ça conduit à ça. Ça conduit à un effondrement des prix. Chacun produit ce qu'il veut et du coup... Pour faire du revenu pour les agriculteurs, on voudrait redonner, on le voit en ce moment, au Sénat puis à l'Assemblée, on veut redonner une autorisation pour utiliser des néonicotinoïdes. Mais ce qui veut dire que plutôt que gérer la production, gérer politiquement, y compris en allant se bagarrer au niveau international pour garder des règles par grande région, on préfère sacrifier notre environnement. Parce que voilà, 80 tonnes de betteraves, c'est pas rien. Sans néonicotinoïdes, on y arrive. Il y a des produits même qui existent, qui sont d'ailleurs pas non plus sans danger. Donc c'est d'abord une question économique. D'ailleurs, les agriculteurs ont commencé à manifester l'année dernière sur la question du revenu agricole, qui est toujours pas réglé. Hein. On peut essayer de faire réautoriser des produits tant qu'on veut pour faire plaisir. C'est un peu de la démagogie, mais ça ne règle pas la question du revenu. La question du revenu, c'est une question centrale, mais il faut prendre des décisions, faire des choix politiques pour, en quelque sorte, protéger à minima notre agriculture sur des critères de qualité environnementaux, pas que, ça peut être aussi la typicité, le lien au terroir, ce qu'on veut, mais on doit en Europe être capable de protéger notre agriculture plus qu'on le fait là. Au hasard, 80 000... Amiens.
L'association Génération Future a élaboré une carte des achats des pesticides.
Ah oui, on va arriver à avoir une carte par code postal et on repère facilement dans le Santerre un certain nombre de zones où il y a des
forces. Plus c'est foncé.
Plus c'est foncé, plus il y a d'utilisation, on voit qu'il y a des zones qui correspondent au code postal, c'est le plus fin qu'on peut sortir.
Et comment vous obtenez ces informations ?
Ce sont des informations publiques qui sont regroupées dans la Banque nationale des ventes de pesticides. Mais elles sont inexploitables telles quelles, parce que c'est des fichiers énormes avec des données dans tous les sens. Voilà. Donc nous, on en fait un traitement informatique. On le gère spatialement pour pouvoir faire des cartes avec, qui donnent les renseignements, qui permettent aux gens d'avoir accès à l'information de manière simple, par une lecture de carte. Et donc ce qu'on a déjà publié, c'est cette carte à l'échelle départementale. Voilà, qui permet de voir, vous voyez, par exemple, que nos départements des Hauts-de-France, surtout si on prend les substances de synthèse, sont très très foncés, c'est-à-dire qu'on a ici la Somme, qui est le premier département consommateur avec plus de 1800 tonnes de pesticides de synthèse, donc non autorisés en bio, au niveau national. Le Pas-de-Calais étant le quatrième, l'Oise étant septième, donc l'Aisne étant cinquième.
Il faudrait que les agriculteurs acceptent aussi d'avoir un peu moins de production.
Oui, parce qu'on le voit bien, ce qui fait le revenu, ce n'est pas forcément la production. Je vois, il y a eu pas mal de travaux intéressants faits par l'INRA, etc., en marge d'Ecophyto, le plan de réduction des pesticides. On voit bien qu'on peut, dans certains systèmes de production, dans beaucoup de systèmes de production, diminuer le rendement tout en maintenant ou en augmentant la rentabilité. Ça, c'est un truc qu'il faut intégrer, et qui n'est pas forcément intégré, parce qu'il y a eu une dynamique dans l'agriculture, surtout ici dans nos régions. Là. Il y avait le club des 100 quintaux. C'était vraiment, plus on produisait, là, plus on était vraiment un super agriculteur, 90 quintaux, allez, 100 quintaux, là, on était vraiment un gars extraordinaire. Mais c'est les derniers quintaux, ils coûtent super cher à produire, en fait, parce que faut pousser en engrais, faut mettre encore plus de pesticides pour pas avoir la moindre perte de rendement. Et vous n'en tirez pas un bénéfice, ou peut-être même moins de bénéfices par rapport à ce que vous allez investir. Il y a des groupes d'agriculteurs dans l'Eure, là, coordonnés par un agronome là, qui vient de partir en retraite, qui habite pas très loin de chez moi, et qui avaient des performances agroéconomiques fantastiques. Ils produisent un peu moins que leurs collègues, mais finalement, ils s'en tiraient 3 années sur 4, même mieux économiquement. Une année pourrie, là, ils étaient moins bien, mais grosso modo, sur la moyenne des 4 ans, ils s'en tireraient tout à fait honorablement en utilisant moitié moins de pesticides. Donc c'est possible. Et heureusement qu'on a des exemples comme ça en vraie grandeur. Il faut avoir des ingénieurs, des techniciens qui soient solides pour travailler. En plus, c'est du travail participatif avec des groupes d'agriculteurs. Ce n'est pas un truc qui doit être descendant en disant « vous allez faire comme ça, voilà le papier, vous suivez la recette ». Ça ne se passe jamais comme ça, toutes les années sont différentes. Les agriculteurs échangent aussi entre eux horizontalement, discutent avec l'agronome référent et ça donne de très bons résultats. Mais on voit que ça reste malheureusement l'exception, ce type de groupe, et que globalement, il y a encore une difficulté. Il y a une vraie difficulté à aller un peu déprogrammer le mode d'emploi, quoi. C'est une question de software, comme on dit, c'est le logiciel. Et pour que le logiciel il évolue vraiment, il faut que tout le monde tienne le même langage.
Les plans éco-phyto pour réduire l'utilisation des pesticides dans l'agriculture se succèdent depuis 2008, avec initialement un objectif de diminution de 50% en 10 ans qui n'a pas été atteint. Objectif repoussé à chaque plan, dénonce l'association Génération Future, qui estime qu'il y a urgence à agir.
D'entrer dans le parking de votre destination.
Nous sommes à Estrémons, une commune dans l'est de la Somme. Nous sommes sur l'un des sites de l'INRAE, l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et ici, l'INRAE a plusieurs champs où elle fait des expérimentations depuis plusieurs années.
Donc je suis Sébastien Darras, je travaille à l'unité expérimentale Grande Culture Innovation Environnement, ici à Estrémons. Et donc je suis technicien de recherche et je suis porteur de projets d'expérimentation dans le cadre du plan Ecophyto et notamment du volet Défi XP. Donc je suis porteur du projet Système Eco Plus qui vient de se terminer en 2024. Et je suis également porteur du nouveau projet BET Eco Plus pour l'aspect système betteravier.
On va juste aller se préparer, chercher nos...
Faut que je mette mes bottes aussi, du coup.
C'est comme vous voulez.
C'est mieux ?
Ah oui, si vous les avez, c'est mieux.
Je les ai, je vais les mettre alors.
Donc ici, on est sur un domaine expérimental de 168 hectares. Et donc nos expérimentations système, donc Défi XP, elles sont à peu près réparties sur... Donc Réseau PES, on est à peu près sur 2 hectares. Et Système Eco Plus, on est sur une dizaine d'hectares. L'intérêt, c'est d'avoir des parcelles d'à peu près un demi-hectare pour pouvoir travailler avec du vrai matériel agricole, pour vraiment être en situation d'agriculteur. C'est vraiment le rôle des stations expérimentales INRAE, c'est pouvoir travailler comme des agriculteurs, mais surtout de prendre des risques que les agriculteurs ne doivent pas prendre. Donc là, on est sur des zones de limon profond, donc c'est des terres qui sont très fertiles, très homogènes, donc vraiment très favorables à l'expérimentation agronomique. Donc on a des résultats qui sont très très pertinents et très intéressants. Donc par exemple, si on est au système betteravier de l'essai système EcoPlus, on a des objectifs de réduction de moins 50 à moins 70% selon les modalités testées. Et donc sur la période 2012 à 2023, on a réussi à réduire de moins 60 et moins 80% l'utilisation des herbicides. Sur les essais, il n'y a pas de baisse de rendement significative qui sont constatées. Et on a également des marges économiques pour les agriculteurs qui sont très très proches, voire similaires au système de référence.
Et alors concrètement, donc comment vous faites pour réduire d'autant ces utilisations d'herbicides ?
Donc c'est vraiment une combinaison de leviers. Donc par exemple, le levier majeur qu'on va utiliser, qu'on encourage, c'est la diversification et l'allongement de la rotation. Mais ça va être également d'alterner les cultures d'hiver, les cultures de printemps, les cultures d'automne. Ça va être également d'intégrer des cultures étouffantes dans les systèmes, par exemple de la luzerne ou du chanvre, pour vraiment venir concurrencer les adventices.
C'est des plantes qui peuvent empêcher les mauvaises herbes de venir ?
Oui, alors en fait, par leur développement, elles vont avoir un effet étouffant. Donc elles vont empêcher la lumière de descendre jusqu'au sol. Et du coup, elles vont avoir une concurrence très forte vis-à-vis des adventices. Donc les adventices vont être là, mais elles vont être contrôlées sous les plantes en fait. Elles vont pas pouvoir se développer, elles n'auront pas d'impact sur leur rendement, et elles vont pas non plus réaliser leur cycle de développement, elles vont pas pouvoir monter à graines et pouvoir se reproduire en fait. Et après, il y a d'autres leviers agronomiques, comme le désherbage mécanique, désherbage alternatif par exemple. Donc ça, c'est des solutions curatives qui remplacent les herbicides chimiques. Pour un désherbage mécanique bien réalisé, on a une efficacité d'environ 70%. Donc on ne va pas savoir tout contrôler avec ces techniques. Mais c'est vraiment, quand en amont, on prend des techniques qui sont préventives, comme justement l'alternance des labours, l'alternance des cultures d'hiver, cultures d'automne, ça fait qu'on va baisser la pression adventice et justement, on va arriver à des résultats qui sont satisfaisants.
Et sur les fongicides, du coup, quelles sont les techniques que vous avez mises en œuvre pour essayer de réduire cette utilisation ?
Alors sur les fongicides, notamment sur les betteraves, on travaille beaucoup à travers la sélection variétale, la résistance des variétés. Pour ça, on a un partenaire sur le site qui s'appelle le GVS et qui, eux, évalue les variétés betteravières les plus résistantes, les plus performantes en termes de rendement, mais aussi les plus résistantes en termes au niveau des maladies. Et donc, nous, notre choix variétal va se tourner vers ces variétés les plus résistantes aux maladies pour éviter le passage d'un ou deux fongicides supplémentaires.
Les recherches menées ici ont vocation ensuite à se retrouver en application concrète grandeur nature. Marie Flamand est chef de programme gestion des adventices, les mauvaises herbes, chez AgroTransfert, une structure de recherche et développement agricole dans les Hauts-de-France. Elle fait le lien entre l'INRAE et les agriculteurs. Et elle constate que la gestion des mauvaises herbes est de plus en plus compliquée car elles sont plus résistantes aux herbicides.
Il y a une plus grande tolérance au traitement, c'est-à-dire que le traitement chimique va lui mettre un coup, mais en fait elle va quand même réussir à repartir. Et il y a un stock semencier, et on en parlait quand on parlait du coup du fait que le problème avec les mauvaises herbes, c'est que elle monte à graines et tous les ans elle réalimente le stock. Il y a un stock semencier qui semble être de plus en plus conséquent et qui fait que même si on applique l'herbicide, le stock est tel, le potentiel d'infestation est tel que l'herbicide n'est plus suffisant pour gérer une telle pression. D'où la nécessité d'introduire l'agronomie et de recourir à l'agronomie pour baisser le potentiel d'infestation.
Et alors ce qui se fait ici à Estrémons, est-ce que ça s'applique déjà chez les agriculteurs aux alentours ou de la région ?
Certaines choses oui, d'autres moins.
Alors, quelles choses qui se mettent en œuvre ?
Je pense par exemple, ici on a des rotations qui sont déjà assez diversifiées. On voit bien, on a déjà des betteraves, des pommes de terre, des légumes d'industrie, du lin, avec des céréales. Donc généralement, on va avoir une culture d'hiver et une culture de printemps qui s'alternent un an sur deux. Ça, c'est déjà des choses qu'on va constater dans les systèmes de culture régionaux. Tout à l'heure, Sébastien a parlé du désherbage mécanique. Ça, c'est quelque chose qui se met plus difficilement en place dans les exploitations de la région.
Pourquoi ?
Il y a l'investissement déjà dans le matériel. Et il y a, comme le disait Sébastien, une montée en compétences qui n'est pas évidente. Et souvent, les agriculteurs vont... Ceux qui se lancent et qui décident d'acquérir le matériel vont l'acquérir... vont l'expérimenter dans des conditions qui vont pas être optimales et du coup vont être déçus du résultat et il n'y a pas cet accompagnement long terme qui va leur permettre de vraiment s'approprier le matériel. Donc ensuite le matériel va vivoter sous le hangar et derrière il va pas y avoir une vraie utilisation du matériel en parcelle.
Pour Caringot chez Carnot qui vient pour l'ocument. Carnot, c'est les boîtiers.
Les boîtiers,
ouais. On présente les trucs.
Sans accompagnement, il est difficile pour les agriculteurs de réduire seuls l'usage de produits phytosanitaires. D'où la création du réseau DEFI dans le cadre du plan Ecophyto. Dans le Vimeux, près de la baie de Somme, 12 exploitants y participent. Groupe animé par Marie Levaste, conseillère à la Chambre d'agriculture de la Somme.
Alors bah, concrètement, c'est des essais en parcelle, c'est des réunions, c'est des formations, c'est de l'accompagnement des agriculteurs au quotidien. Bien souvent, les idées viennent d'eux, donc c'est vraiment eux les pilotes en fait de ce groupe. Et derrière, nous, on les accompagne pour faire du mieux possible et de transférer leurs connaissances que eux obtiennent sur leurs exploitations.
Le groupe a d'abord réussi à supprimer un pesticide, le régulateur de blé. Jérôme De Villers, exploitant polyculture élevage, qui participe au réseau Défi depuis 2010.
Comme un blé, on sème à 200 grammes mètre carré au 15 octobre, quoi, à peu près, même en, ouais, ça.
Alors que la moyenne,
t'as 250, quoi.
Vous semez moins.
On semait moins de rue, quoi, voilà. Okay. Moins épais. Donc il y a moins de végétation, il y a un risque moindre de voir se coucher, quoi.
Ça fonctionne, oui.
Ça fonctionne. Donc, voilà, non, ça fait des années qu'on ne fait plus. Puis dans le secteur, et quand même nous dans le village, on est à 3 ou 4 agriculteurs, on ne fait plus, quoi.
Il fait aussi des tests en acceptant de prendre des risques.
Par exemple, j'ai fait une année, on a fait qu'un fongicide sur blé. Le problème, c'est que j'avais une variété qui n'était pas du tout résistante à la maladie qu'on protège. Et on a vu la différence par rapport aux autres variétés, quoi. Donc j'ai pris presque 20 cartons de moins par rapport aux parcelles, au blé résistant à cette maladie-là, quoi.
Quand vous avez donc, moins traité, donc il y a eu moins de rendement.
Mais on l'a vu à la vue d'œil, hein, la culture, le blé a changé de couleur parce qu'il y a eu plus d'intempéries, mais de la pluie, et la maladie s'est propagée plus vite que les blés résistants à cette maladie-là, quoi.
Donc ça, vous avez dit, c'est un essai raté.
C'est un assez... Non, raté. Parce qu'on a essayé parce que la météo était propice à ça, mais la variété n'était pas adaptée à ça. Et on s'en est aperçu, pas aperçu après, c'est quand on a fait le tour de plaine avec le technicien, on a dit mince, la variété là, on va décrocher. Pourtant, c'était trop tard, on pouvait plus rien faire. Donc on savait qu'on allait prendre un bouillon, mais on a pris 15-20 cartons de moins qu'un blé adapté à cette façon de traiter, quoi.
Alors, en fait, les parcelles expérimentales, c'est les agriculteurs eux-mêmes qui me disent « Bon, bah Marie, je vais mettre un essai là. » Ou alors, je dis « Qui veut faire un essai, par exemple, de désherbage ?» Et ils me proposent leur parcelle et voilà, ça vient d'eux. Donc c'est mieux, en fait, on n'est pas du tout en micro-parcelle comme on peut être dans des stations expérimentales. Là, c'est vraiment grandeur nature. Donc souvent, les essais, ils vont faire 30 arts, 1 hectare. Enfin, voilà, on n'est pas en micro-parcelle où le biais est quand même un peu plus important. Là, on est sur une grandeur nature.
Et est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'essais qui viennent de se terminer ou d'essais en cours ?
Alors, on a eu, au niveau des essais, il y a quelques années, tout ce qui était culture à bas niveau d'intrants, donc avec peu d'utilisation de phyto, donc c'était l'introduction du soja, du lupin et du tournesol. Il y avait eu des tests qui avaient été faits pour voir la faisabilité de ces cultures-là chez nous. Après, le problème, dans un sens comme dans un autre, c'est que chez nous, on a quand même des contextes avec déjà beaucoup de cultures. Ici, en bonne terre, sur le plateau de la plaine maritime Picarde, on n'a pas l'intérêt en fait, de faire ces cultures-là d'un point de vue économique, même si elles ont peu d'usage de phyto. Les agriculteurs en face m'ont dit « Mais Marie, il n'y a pas de marge vis-à-vis de ces cultures-là, donc quel serait l'intérêt de le faire malheureusement ?» Donc voilà, on les avait quand même testés. Et après, parce qu'en fait, ils travaillent sur à la fois la réduction des phytos, mais aussi tout ce qui est autonomie alimentaire. Donc après, j'ai eu l'introduction de la sylphie dans une autre parcelle. C'est une culture qui est originaire d'Amérique du Nord et qui a pour vocation soit la méthanisation, soit l'alimentation animale. Et du coup, c'est une vivace qui reste pendant 15 ans et l'objectif, c'est de la conduire comme une luzerne, donc avec plusieurs coupes par an pour l'alimentation animale. Et en fait, cette culture-là, zéro phyto aussi. Donc c'est en cours actuellement depuis 2 ans.
Depuis 2 ans également, les agriculteurs du groupe Défi utilisent le désherbage mécanique, comme Frédéric Richard, mais sur certaines cultures uniquement.
Sur les cultures de printemps, moi par exemple, je fais un désherbage mécanique sur mes maïs. Donc je fais l'impasse d'un désherbage chimique au début. Je fais un désherbage mécanique avec une hercétrie. Et puis je reviens après compléter avec un désherbage chimique pour ce qui n'a pas été détruit avec le désherbage mécanique.
Qu'est-ce que ça implique le désherbage mécanique ?
Un risque. On prend des risques qui ne sont pas garantis par rien, quoi, en fait. C'est pas très répandu dans nos régions, donc on ne sait pas. Et l'efficacité, elle est liée aussi au climat, toujours pareil. Il faut quelques jours de sec derrière pour que les mauvaises herbes se dessèchent et meurent après le passage de la hercétrie. Si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas, quoi. C'est pour ça qu'il y a un filet de sécurité qui est le traitement qui revient derrière pour rattraper ce qui n'a pas été détruit avec le passage mécanique.
Justement, oui, quand on fait du passage mécanique, ça veut dire qu'il faut le faire dans la bonne fenêtre de tir au niveau climat.
Ah ben oui, c'est ça notre problème, surtout nous avec la bordure maritime, on est souvent embêtés. Il faut qu'il fasse sec, il faut quelques jours de temps sec derrière pour que ça fonctionne. Et c'est un des problèmes dans nos régions. D'une année sur l'autre, c'est pas toujours faisable.
Et est-ce que ça demande plus de temps aussi, le désherbage mécanique, et plus de moyens humains ?
Moyen sur de temps, oui, bien sûr, le débit de chantier est bien moins important dans des herbages mécaniques qu'autrement, et c'est surtout des moyens financiers parce que c'est du matériel qui est très onéreux quand même. On a la chance d'avoir pu l'acheter avec quelques aides et puis avec d'autres agriculteurs. Tout le monde a, même les gens qui n'étaient pas forcément dans nos démarches groupe chambres, nous ont suivis pour l'achat du matériel, quoi. On a été notre coopérative d'utilisation de matériel, là, tout le monde a dit ok et on a acheté le matériel tous ensemble, quoi, en fait, pour essayer.
Et depuis que vous participez au réseau Défi, vous avez réduit de combien l'utilisation de produits phytosanitaires ?
Ah ben ça c'est difficile. C'est difficile à dire. Et puis c'est pas des choses qui se décrètent, la réduction de phytosanitaires. En fait, on a beau avoir un objectif de 50%, il y a des années on va rien réduire du tout. Puis d'autres on réduira facilement de 20 ou 30%. Et ça c'est là qu'on voit, c'est sur le terrain, c'est l'intérêt de ces groupes, c'est sur le terrain qu'on se rend compte de ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. C'est un peu aussi l'intérêt de participer à ces groupes-là, c'est de montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc dire de combien j'ai réduit, on doit être ethnopratique dans une vingtaine de pourcents de moins que les moyennes régionales, je pense.
Est-ce que vous pensez, dans plusieurs années, réduire encore plus l'utilisation des produits phytosanitaires?
Ben là, avec le changement climatique, réduire encore plus les produits phytosanitaires, j'en ai aucune idée. Et bien sûr, si c'était possible, pourquoi pas, parce qu'on ne fait pas ça par plaisir. Mais comme je vous dis, on est dans un contexte économique compliqué, concurrentiel. Il faut faire du revenu pour que nos exploitations soient viables. Donc on réduit jusqu'à ce qu'il est possible de faire, pas par idéologie, mais par on fait ce qui est possible de faire.
Les Hauts-de-France peuvent-ils sortir des pesticides ? C'était un reportage de Lise Verbeek avec Sam Bakiast à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'économiste Sophie Toyer, directrice de recherche à l'INRAE, est en direct de Montpellier pour réagir à ce reportage et le compléter. Alors nous étions donc dans la région des Hauts-de-France qui peine à se passer de pesticides. 6% des fermes des Hauts-de-France sont engagées en agriculture biologique contre 14% au niveau national. Et si on regarde les surfaces agricoles, on est plutôt à 3%. Qu'est-ce qui est propre à ce territoire et qui explique ce retard, Sophie Toyer ?
Alors, les zones les plus traitées en général en France sont celles qui sont des zones d'agriculture plutôt intensives et spécialisées. Et puis, de l'autre côté, effectivement, les productions qui exigent aussi beaucoup de traitements encore aujourd'hui pour certaines, comme la vigne ou l'arboriculture. Et donc, en fait, les Hauts-de-France, c'est une grande région de ce qu'on appelle grande culture, donc céréales, et puis ces cultures industrielles comme la pomme de terre et la betterave qu'on a vu dans votre reportage. Et donc, ces cultures-là, elles ont été effectivement soumises dans les années récentes à des interdictions de substances actives et de produits pesticides. Qui fait que peut-être c'est plus compliqué et on trouve des agriculteurs qui se sentent plus dans une impasse technique peut-être que dans d'autres zones et d'autres systèmes agricoles et pour lesquels effectivement trouver une solution qui passe exclusivement par le chimique, qui est un petit peu ce qu'ils évoquent, devient de plus en plus compliqué.
Alors, limiter les pesticides, c'est pourtant une nécessité pour l'environnement. J'évoquais en introduction la perte de biodiversité, mais il faut aussi souligner l'impact sur la santé. Les pesticides, on les retrouve dans l'air, dans l'eau potable, bien sûr, dans l'alimentation. Or, les données épidémiologiques s'accumulent. Il existe bien un lien entre exposition aux pesticides et certaines maladies. Dans les Hauts-de-France, Lise, c'est justement un sujet de préoccupation pour les professionnels de santé.
Oui, c'est d'ailleurs pas par hasard qu'il y a à peu près un an et demi, il y a eu la création au CHU d'Amiens de la première consultation pesticides et pathologies pédiatriques en France. L'objectif de cette consultation, c'est de faire reconnaître l'exposition professionnelle des parents aux pesticides et donc un lien avec une pathologie infantile comme des leucémies ou des malformations pour ensuite prétendre au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Et dans ces consultations, les femmes d'agriculteurs viennent souvent sans leur mari, elles n'osent même pas leur en parler parce que forcément c'est compliqué pour les agriculteurs de se dire que si leur enfant est malade, c'est parce que potentiellement ils ont été exposés aux pesticides quand ils étaient dans le ventre de leur mère.
Sophie Toyer, les pesticides, c'est aussi un marché. Ceux qui les vendent n'ont pas intérêt à ce que ce marché périclite. Comment est-ce qu'on résout cette équation ?
Eh bien, avec difficulté. En fait, ce qui se passe, c'est que réduire les pesticides, ça a un coût, un impact financier, mais aussi un temps d'apprentissage, des risques pour l'exploitation agricole, d'une part. Mais ça, à la limite, ça peut se résoudre et on est en train d'avancer là-dessus. Mais il faut aussi répondre au verrouillage du système économique global qui, en fait, pour les systèmes alimentaires qu'on a aujourd'hui en France, en Europe, se sont beaucoup construits sur le miracle des intrants de synthèse. Et donc, en fait, toute l'organisation du système économique, c'est-à-dire les marchés, le type d'infrastructure qu'on a pu construire, le type d'industrie agroalimentaire, et même la manière dont nous-mêmes, consommateurs, nous choisissons de consommer ou nous aimons certains produits plutôt que d'autres, fait qu'il est très difficile aujourd'hui de favoriser d'autres manières finalement de produire avec des solutions alternatives pour la protection des cultures qui ne passent pas exclusivement par le chimique.
Mais voilà.
Aujourd'hui, quand les l'industrie des pesticides, comme n'importe quelle industrie, défend ses intérêts. Elle va beaucoup mettre en avant son poids économique, les emplois qu'elle crée. Mais on peut regarder quelques chiffres. Aujourd'hui, au regard comme l'a indiqué Lise sur la question de la santé, au regard des coûts induits, qu'on appelle souvent d'ailleurs des coûts cachés, parce qu'ils ne sont pas révélés directement par le marché de l'usage des pesticides, parce que pollution des eaux, parce que problème sur la santé, par exemple, y compris les agriculteurs eux-mêmes qui en sont victimes, eh bien, il est absolument ces coûts-là sont bien plus supérieur à ce que peut rapporter l'industrie des pesticides aujourd'hui.
Donc il faut bel et bien changer de modèle et pas simplement donner du temps aux agriculteurs comme ils le demandent.
Oui, alors se donner du temps, qui s'est aussi traduit finalement par le slogan « pas d'interdiction sans solution », qui a été repris d'ailleurs par la Commission européenne un petit peu dans l'exposé qu'a fait notre nouveau commissaire à l'agriculture la semaine dernière sur la vision de la Commission sur l'avenir de l'agriculture, mais aussi dans la loi d'orientation agricole qui a aussi été votée la semaine dernière. C'est probablement un débat qu'on ne peut pas se permettre d'avoir aujourd'hui. On l'entend, en tout cas les scientifiques le savent, aujourd'hui on ne peut plus reporter la question de la réduction drastique de l'usage des pesticides en agriculture, compte tenu de l'ensemble des impacts qu'ils peuvent créer pour nous et pour les générations futures, et même, d'un point de vue économique, les coûts que ça va engendrer en termes de réparation, ou même de pertes irréversibles. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce slogan de pas d'interdiction sans solution, ça sous-entend qu'on peut toujours substituer à une molécule qui serait interdite pour des raisons objectives de problèmes de toxicité, par exemple, on pourrait retrouver une nouvelle molécule. En fait, là, on est un petit peu arrivé aux limites de ce qu'on peut faire. D'ailleurs, on constate qu'il y a de moins en moins d'homologation de nouvelles molécules. Et donc, il faut trouver des solutions différentes et qui reposent pas sur des nouvelles substances actives. Et là, il y en a beaucoup. Une des personnes dans le reportage parlait de combinaisons de leviers. C'est exactement ça. Il y en a qui vont améliorer un petit peu l'efficience de l'usage du pesticide dans le système actuel, mais on peut aussi substituer. On a parlé de sélection variétale, on a parlé de produits de biocontrôle. Et puis, derrière ça, il y a aussi la reconception de nos systèmes de culture. Et, si je peux encore en parler un petit peu, c'est bon, là, on l'a peut-être un peu moins entendu dans le reportage, sauf dans la bouche peut-être des chercheurs, mais il y a beaucoup d'innovations et d'initiatives dans ce domaine-là. Ça fourmille dans la France entière, y compris et principalement portées, initiées par les agriculteurs eux-mêmes. Les agriculteurs bio en sont un bel exemple, mais il y en a bien d'autres.
Alors, il y a des initiatives, effectivement, des initiatives qui viennent des agriculteurs dans certains cas, mais pas seulement. Je crois que vous avez un exemple en tête, Lise.
D'initiatives pas seulement d'agriculteurs ?
Oui, parce que en réalité, il y a les agriculteurs, mais aussi tous les acteurs de la filière qui doivent intervenir si on veut véritablement changer de modèle.
Oui, par exemple, du côté des industriels, ici dans la Somme, il y a l'industriel Mousseline qui a mis en place un groupe de recherche justement pour essayer avec des agriculteurs pour essayer de réduire les pesticides. Donc le groupe de recherche a été lancé et donc il y a aussi une volonté quand même des industriels de se saisir de cette question de comment on fait pour réduire les pesticides dans l'agriculture.
Volonté de certains industriels, en tout cas, Sophie Toyer. La difficulté, c'est pour que les choses bougent, il faudrait que tout le monde bouge en même temps.
Oui, c'est exactement ça. C'est ça qui fait qu'on parle parfois de verrouillage du système. C'est que, en fait, il a tendance finalement à s'auto-entretenir, voire même s'auto-renforcer, et que lorsqu'un des acteurs choisit d'en sortir, ça se fait souvent à ses dépens, en fait. Et donc, c'est là où finalement, quand même, la politique publique aussi, la réglementation peut aider à faire basculer, ou en tout cas à déverrouiller ce système-là. Créer des nouveaux marchés, par exemple, on l'a entendu dans le reportage, c'est bien de faire des cultures de diversification, ce qui permet effectivement de réduire la pression des bioagresseurs, mais ces cultures de diversification, il faut leur trouver un marché, par exemple. Donc il y a ainsi comme ça un certain nombre de signaux qu'il faut envoyer à ce système pour qu'il se déverrouille. Et pour revenir à votre question initiale, là, qui était la question de « il faut donner du temps », je ne suis pas sûre que ça soit un bon signal, parce que si l'on dit ça et si la politique publique le reprend, comme elle l'a fait en partie, c'est quelque part envoyer le signal que le statu quo est encore possible, et donc quelque part, ça retarde les initiatives, y compris parce que derrière ces initiatives, certes, il y a des agriculteurs qui ont un besoin de temps d'apprentissage, on est d'accord, il faut qu'ils expérimentent pas à pas, mais il y a aussi des filières économiques, par exemple pour fournir des produits alternatifs de biocontrôle, ou des filières d'équipements spécialisés pour un désherbage efficace qui se substituerait aux herbicides, et que ces filières-là, pour devenir viables, il faut qu'elles aient un marché. Et tant qu'on dit « il y a du temps, on reporte à plus tard », eh bien, elles ne trouvent pas de marché. Donc, vous voyez, c'est ça que je veux dire quand on dit que ces niches d'innovation ont du mal à s'imposer dans un système dominant.
Sauf qu'il y a une grosse difficulté aujourd'hui, en France notamment, mais également au niveau européen, enfin en tout cas si on reste sur la France. Certes, il y a un consensus scientifique, mais on a bien vu les levées de boucliers qu'il y a eu parmi les agriculteurs. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'est pas suffisamment fort, perçu comme suffisamment légitime pour pouvoir agir de manière très incitative. On entend bien que là, les propos actuels sont plutôt sur il faut lever les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. Ils essayent de calmer la grogne du monde agricole.
Oui, ça a été dit. Il y a un vrai problème de revenus dans le monde agricole. Alors, tout le monde ne souffre pas d'un problème de revenu, hein, mais globalement, c'est le cas, et puis surtout avec beaucoup de risques, donc beaucoup de des années bonnes et puis des années extrêmement mauvaises. Donc c'est sûr, mais le fait est que peut-être il faut certes accompagner la transition vers moins de pesticides et puis plus largement ce qu'on va appeler la transition agroécologique, et pour ça y mettre des moyens financiers. Il y en a dans la politique agricole commune. Ils sont peut-être insuffisamment incitatifs. On pourrait peut-être les cibler davantage, mais ils existent. Mais il y a aussi le fait que les prix sont aujourd'hui très défavorables à la plupart des agriculteurs, et que la question des prix, remettre en place ou repenser la question des prix, c'est repenser toutes nos organisations de marché. Et là, le gouvernement a peut-être un petit peu plus de mal, donc il propose hein, de redonner de la place à l'agriculteur, aux agriculteurs dans la négociation sur les prix avec les secteurs d'aval, l'industrie qui leur achète leurs produits. Mais elle-même, cette industrie, elle est soumise à la concurrence féroce des autres industries, y compris des importations. Et puis, il y a la pression des distributeurs derrière, qui eux-mêmes sont soumis à la question du pouvoir d'achat des consommateurs. Donc, tout ça est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que les prix, ça va être une des questions centrales. Et ce qui est un petit peu remis sur la table aujourd'hui, notamment à l'échelle de l'Europe, c'est le principe qui pendant longtemps a été intangible de continuer à ouvrir les marchés à la concurrence, ce qui nous offrait des marchés à l'export, mais qui nous exposait aussi à la concurrence de produits importés qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires et environnementales. Et ça change. On peut mettre des clauses de réciprocité pour que les produits importés respectent les mêmes règles en termes de type de production, de type de pesticides autorisés, par exemple, que les produits produits en Europe. Ça change sur le principe. Dans l'application, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Très difficile de contrôler ce qui se passe au Brésil, par exemple.
Mais en tout cas, pour avancer, il faut que la France et l'Union européenne soient sur la même longueur d'onde. Sinon, c'est très, très difficile.
C'est cela. Et puis, ce n'est pas que la France et l'Union européenne. La France n'avancera sur ce plan-là. La France ne pourra pas avancer sans l'Union européenne, c'est sûr. Et l'Union européenne, c'est aussi 26 autres États membres qui n'ont pas tous la même vision, qui n'ont pas non plus tous les mêmes modèles de production agricole, de volonté agro-exportatrice, par exemple. Et donc, effectivement, il faut mettre tout ce monde-là d'accord. Et puis, au-delà de ça, si on parle de protection vis-à-vis de l'extérieur, il faut aussi pouvoir se mettre d'accord avec nos partenaires commerciaux pour qu'ils acceptent ces clauses de réciprocité, par exemple, et qu'ils acceptent de signer des accords commerciaux, on appelle les accords un peu bilatéraux, avec nous.
Et la place des consommateurs, est-ce qu'on peut les amener à changer d'habitude alimentaire parce que, à travers l'offre, ou est-ce que c'est aussi vraiment leur responsabilité de faire bouger les choses ?
Ah, c'est aussi leur responsabilité de faire bouger les choses. Et là aussi, quelque part, ils sont les héritiers d'un système qui prévaut depuis 50 ans. Donc, même moi, je dirais, je vais choisir spontanément la pomme qui n'est pas abîmée ou qui n'est pas tachée dans le bac à fruits de ma grande distribution, par exemple. Donc, là, il y a vrai. Donc, c'est très compliqué à faire évoluer, c'est les préférences que peuvent avoir les consommateurs. Il y a des initiatives qui existent, les fruits moches, etc. Et puis les autres initiatives qui peuvent être aussi portées par les collectivités territoriales, par exemple, c'est la commande publique. Donc eux aussi s'accorder pour aussi commander, alors, par exemple, des produits bio, en tout cas des produits qui ont une certaine valeur agroécologique en termes de production, par exemple.
Merci. Donc, Sophie Toyer, et merci à Ici Picardie d'avoir accueilli Lise Verbeck qui signe le grand reportage de cette semaine. Les Hauts-de-France peuvent-ils sortir des pesticides ? Réalisation Sam Bakiast, à la technique Grégory Wallon à Paris et Florian Dard à Amiens, au web Caroline Beneteau. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.